Vous écoutez
RMC. RMC, la boîte à souvenirs.
Lionel Charbonnier.
Bonjour à tous, je m'appelle Lionel Charbonnier, j'ai 53 ans, je suis un ancien gardien de but, champion du monde 98, champion de France avec la JOCR, champion d'Écosse avec les Rangers, et ensemble nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs.
RMC,
la boîte à souvenirs.
Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs, votre nouvelle émission durant les fêtes de Noël avec les membres de la Dream Team de 20h à 21h sur RMC. Aujourd'hui, nous sommes donc, vous l'avez bien compris, avec Lionel Charbonnier. Salut Lionel.
Salut JC, bonsoir à tous.
Durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments de joueur, tes cicatrices, ton statut aussi de remplaçant en bleu, titulaire à la JA, mais ça ce sera dans quelques instants. Ton boulot est très simple. Devant toi, une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur et au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer au sort dessus. Un mot, une date, un moment que tu vas évidemment nous raconter. Avant de débuter avec le premier papier, mon Lionel, comment tu te sens ?
Un peu stressé parce que vous m'avez tous dit que ça allait être une émission extraordinaire, donc je m'attends au pire, j'ai peur, on va voir, prête à faire un striptease radiophonique.
Très bien, tu vas te dévoiler, te mettre à nu pour nous, évidemment, mon Lionel. On va débuter.
Vaut mieux que ce soit radio, hein, parce que.
Oui, c'est vrai que c'est pas filmé. On pourrait le regretter. En tout cas, pour moi, je te vois de visu, donc j'aurai le droit au son et à l'image. On va découvrir le premier papier avec toi dans la boîte à souvenirs, mon Lionel.
Je confirme, il y a bien une boîte, il y a bien un premier papier. 20 avril 93.
Est-ce que tu te souviens de cette date ?
C'est mon premier match, non ?
Ce n'est pas ton premier match, mais c'est ton premier match, on va dire, médiatique. Demi-finale retour de la Coupe de l'UEFA. Tu n'es pas là au match aller. La JA perd 2-0 sur la pelouse de Dortmund. Exactement. Match retour. Auxerre mène 2-0. Auxerre va donc en prolongation. Auxerre va donc au tir au but, avec dans les buts Lionel Charbonnier. Tu vas nous raconter ça après. Mais là, c'est le dernier. Stéphane Mahé, Auxerrois. S'il marque, ça continue. S'il ne marque pas, c'est terminé.
Oui, il arrête. C'est fait. Mahé a raté. Charbonnier n'a pas voulu voir ça. Et c'est le Borussia Dortmund qui est qualifié pour la finale de la Coupe de l'UEFA sur ce tir au but.
Aïe, aïe, aïe.
Terrible. Terrible dénouement. Et les pleurs de Mahé n'y changeront rien. Formidable image du capitaine.
Aïe, aïe, aïe.
Ouais, aïe, aïe, aïe. C'est ton premier grand rendez-vous avec la JOCR. Tu avais évidemment disputé des rencontres avec Giroud et avec l'équipe première, mais à ce moment-là, tu es plutôt numéro 2 derrière Bruno Martini. Tu n'es pas censé être le numéro 1. Et pourtant, Giroud te parle du scénario du match avant cette rencontre. Il te dit ce qui va se passer.
Ouais, exactement. Je me souviens, alors là, comme si c'était hier, je connaissais pas la date, tu vois, je savais pas que c'était le 20 avril 93. Mais effectivement, Giroud vient me voir juste avant la collation et il me dit, ce soir, c'est toi qui joues. Tu te rappelles qu'on a perdu 2-0. Eh ben, ce soir, on va gagner 2-0. On va aller au pénalty. Et tu vas nous faire gagner au pénalty. Parce qu'à savoir que jusque-là, j'étais tout le temps allé au pénalty. À chaque fois qu'on était allé au pénalty, à chaque fois, on avait gagné. Et en plus, le pire de tout ça, c'est qu'il y a 2-0 à la mi-temps du match, je dirais, parce que c'était le match retour. Et à la fin du match, dans les dernières minutes, Bruno, pénalty pour Dortmund, et Bruno arrête le pénalty. Et donc, à 3-0, c'était cuit. C'était franchement très compliqué. Et là-dessus, Bruno ne joue pas. Ça m'a servi plus tard, tu vois, parce que je peux te dire que quand Giroud m'a dit c'est toi qui joues ce soir avant la collation, on a eu du mal à passer.
Hein. Ouais, et le problème, c'est que lors de cette séance de tir au but, t'es pas là. Ou en tout cas, t'es pas brillant.
Ah mais non, je suis nul. Surtout le plus compliqué, c'est que là, je me suis dit waouh, premier penalty, j'ai dû en faire. Je sais pas s'il y en a eu six ou sept de mémoire. Je dois partir au moins 5 fois du bon côté. Seulement à chaque fois qu'il tire, je vais dire c'est con d'allemand parce que mais je les aime bien quand même. Mais à chaque fois qu'il tire, je prends, j'ai les gants qui prennent feu quoi. je prends des missiles comme jamais j'ai pris dans ma vie, même pas dans les séances de frappe à la JA. Et là, je me dis, waouh, dès le premier, parce que tout le même penalty 10 jours avant, avec moins de force, je l'arrêtais. Et là, je me rends compte que je suis passé dans une autre catégorie. Et je me dis, il va falloir vraiment être très très fort, partir tôt, pas trop tôt non plus, pour. Et je commence à gamberger.
Bon. Et je crois que c'est le plus gros regret de ta carrière. C'est vrai que disputer forcément une finale de Coupe européenne, la Coupe UEFA.
Oui, ça aurait été extraordinaire pour nous, pour le club. Pas pour moi-même, parce que moi-même, je m'en moquais complètement. Mais pour le club, c'était l'apothéose, et on méritait de passer. Je me souviens aussi que il y avait un penalty à un moment donné pour nous, et Coquard peut aller, ça fait 3-0, Coquard peut marquer ce but, il se relève pour aller marquer le but, et puis en fin de compte, à ce moment-là, il la met à côté, et 3-0, c'était fini, on n'allait même pas au péno, il restait 2 minutes, c'était vraiment un dénouement incroyable, le stade était fabuleux, les gens, les Auxerrois. Il n'y avait pas que des Auxerrois. Il y avait des Parisiens, il y avait des Lensois, il y avait.
La France était Auxerre.
Ah, la France était Auxerre. Ouais. Mais les tribunes aussi étaient remplies. C'est vrai qu'on avait cette cote d'amour, de la France, parce qu'on était un petit club, on se dépouillait. On n'était pas des mecs extraordinaires, mais par contre, on mouillait le maillot, quoi.
Ouais, et puis on se rappelle évidemment de l'épopée marseillaise en 93, mais il y a eu aussi cette épopée auxerroise, malheureusement stoppée en demi-finale face au Borussia Dortmund. Ouais. Un nouveau papier dans la boîte à souvenirs avec toi, Lionel, sur RMC, cette boîte à souvenirs avec les membres de la Dream Team.
J'espère que je vais m'en souvenir.
Nous aussi, mais normalement, ça devrait être facile.
Depardieu. Mon Gérard.
Pourquoi Gérard Depardieu?
Oh, tout simplement, moi ça va être un souvenir aussi pour les Marseillais, parce que l'année du doublé
95-96,
Gérard Depardieu et Gérard Bourgoin étaient, bon, bien sûr, très amis depuis de longues dates, et je rencontre cette année-là, je rencontre Gérard Depardieu, un mec extraordinaire, mais qui au départ me prend pour un jambon, j'ai l'impression. Et le soir d'un match, je me souviens de l'avoir rencontré pour la première fois. Alors, au tout départ, c'était, il me semble, j'ai vu le film Cyrano. Et là, il y a mon Gérard qui arrive comme ça, et il vient me voir. Alors, Gérard était gardien de but quand il était plus jeune. Et Gérard vient me voir, et il me fait Cyrano de Bergerac. Alors, comme si j'étais son copain, comme si on s'était vu de longue date, comme si on se connaissait. Et là, il me dit « Oh, mon yo, ça va, mon yo !» et tout. « Oh, super, le match !» Et puis moi, j'étais très fatigué. C'était un match épuisant, j'avais pas beaucoup de boulot. Fallait que je sois très attentif pour bien placer mes pions, bien placer ma défense. Fallait, voilà ce que je dis, arrêter les buts avec la voix.
Et puis, faut préciser que tu es quelqu'un d'entier. On va s'en rendre compte dans cette émission. Donc toi, quand tu es gardien de but, même si tu le dis, t'as pas beaucoup de boulot, il y a beaucoup d'influx, quoi. Donc, t'es exactement dans ton match, et donc t'es épuisé après cette rencontre.
Exactement. Je suis vraiment très fatigué. Alors, contrairement, beaucoup de tension nerveuse. Et pour que cette tension nerveuse, c'est pour ça d'ailleurs que tous les gardiens finissent très tard le soir et qu'ils sortent tout le temps dernier des vestiaires. C'est une règle. Et je pense que c'est parce que, voilà, tu restes là. Je suis dans mon vestiaire. Je suis fatigué. Les joueurs vont à la douche et tout. Et moi, je bouge pas. Et mon Gérard qui vient et qui me parle. Ah, mon yo. Et là, il me fait Cyrano de Bergerac. J'ai dit, mais il se fout de ma gueule. J'ai dit, mais j'en ai rien à foutre, moi, de Depardieu, pas de Depardieu. J'étais pas très content. J'avais pas dû gagner. Et puis, je le snob un peu. Beaucoup, même. Et puis voilà. Il comprend. Très intelligemment, il comprend. Il s'était assis à côté de moi. Et il s'en va. Il s'en va. Il dit, là, je peux rien en tirer. Donc, il s'en va. Et donc, je prends ma douche. Je crois qu'on devait jouer 3 jours après en Coupe d'Europe, sûrement, parce que je me souviens qu'on était, il y avait une règle à Auxerre, c'est que dès qu'on avait fini un match et qu'il y avait match 3 jours après, on allait tout le temps au massage. Et là, on se faisait masser jusqu'à 1h30, 2h du matin. Et donc, la tension était redescendue et mon Gérard arrive comme ça. Et moi, je me sens bien. Alors, mon yo, ça va mieux, t'es mieux comme ça et tout, tu te fais masser. Je dis, ouais. Puis, j'ai dit, mais en fin de compte, je vais rentrer dans son jeu. Et j'ai dit, et toi, mon Gérard? Je dis, mais comment ça se fait que t'as la gueule cramée comme ça? Vous êtes tous les deux, là. Bourgoin et toi. Je dis, les deux Gérard, vous avez la. Ah, il me dit, faut que je te raconte. Et là, il me raconte, une partie de chasse. Il dit, on arrive, on est à la chasse au lion. Il dit, et là, j'ai vécu un truc fabuleux avec Gérard. C'est-à-dire que j'ai vécu une chasse au lion de Cyrano, racontée par, j'avais tout, j'avais l'odeur, j'avais le vent, j'avais la savane, j'avais tout, les images et tout. J'étais dans son, il m'avait cap, il m'avait captivé. J'étais complètement.
Vous étiez trois dans la pièce, mais t'étais au théâtre.
Trois avec le masseur. Ah mais j'étais au théâtre, mais j'avais tout. J'étais pas au théâtre, j'étais dans la savane. Et puis là, il me raconte tout. Il dit, tu sais, il me raconte la chasse au lion. Tu sais Lionel, faut faire attention parce qu'il y a le vent. Faut que tu te mettes du bon côté, et tout ça. Et puis il regarde sa montre. Il fait bipi, tiens, moi je fais le con. Il dit, je me mets du mauvais côté. Le lion me court après. Je dis, ouais. Et puis quoi? Et ben il dit, s'il y a pas Gérard, je suis mort. Il dit, alors Gérard, bam, tire le lion. Il regarde sa montre. Il fait, tiens, pile poil. Il dit, à cette heure-là, il sera en train de me chier dans la jungle.
Gérard Depardieu, on va l'écouter à l'époque, qui parle de Lionel Charbonnier et il t'aime beaucoup.
L'ange gardien des Bourguignons a également beaucoup d'affinités avec Lionel Charbonnier.
C'est un vrai gardien de but. Un poète.
C'est un poète, et là c'est le début d'une amitié avec Gérard Depardieu. Gérard Bourgoin, tu l'as cité, le président de la JOCR, et Laurent Blanc, et tous les quatre...
On fait les 400 coups.
Exactement, le temps en soirée.
Jamais de soirée après les matchs, si on jouait tous les 3 jours. Mais par contre, on se lâchait complet quoi quand on partait avec Lolo, quand on partait de bon matin. Ça c'est quand j'arrivais que ma femme faisait la gueule, j'entendais, je voyais ma femme le matin à 7h, j'arrivais juste pour prendre le sac et repartir à l'entraînement. Et là, on a fait les 400 coups avec les Gérard, avec les deux Gérard, Lolo bien sûr, et on a fait cette année-là. Et surtout, on a fait la fête aussi parce qu'on avait déjà gagné un trophée. Pour le club, c'était important. Donc, on était qualifiés pour l'Europe, déjà, en gagnant la Coupe de France. Et donc, là, on s'est lâché. Et je me souviens que Giroud vient nous voir à la fin. Alors, le match, c'était à Guingamp, où on est champion avant l'heure. Ça doit être 2 journées avant la fin. Le PSG fait une contre-performance. Nous, on doit faire un nul à Guingamp. Je me souviens que Guingamp était magnifique. Guingamp était pour nous. On était au nul. Guingamp, je me souviens qu'il y a un corner pour Guingamp. Et là, t'as tous les Guingampais, le public qui siffle parce que c'était fini, quoi. Et le public qui siffle, qui dit aux Guingampais de pas tirer, de pas jouer parce qu'on était champion. Ils avaient les Auxerrois parce que Guingamp, c'était un peu nous, quoi. Et tout le public qui scandait Auxerre. C'était magnifique. Et à la fin de ce match, donc je remercierai jamais assez les Guingampais pour tout ce qu'ils nous ont donné ce jour-là. L'arbitre me dit sors, faut que tu sortes. Je dis, il y avait pas corner. Il me dit sors. Je sors, je prends la balle. Il me dit dégage en touche. Il siffle la fin du match et Giroud vient vers nous et nous dit, nous réunit. Il dit, vous savez les gars, il dit, si on a gagné cette année, si on a fait le doublé, c'est parce qu'on était beaucoup plus sérieux que tout le monde. Et là, avec Lolo, on se regarde et puis on se dit, qu'est-ce qu'ils ont dû se mettre les autres? Parce que nous, on s'est lâché un truc de fou.
On va écouter Gérard Bourgoin, premier invité de cette émission. Il voulait t'adresser un petit message, évidemment, rappeler ce bon vieux Lionel Charbonnier.
Lionel, c'est la joie de vivre, quoi. C'est l'agrément d'être à côté de lui, le plaisir de vivre avec lui, quoi, de passer des moments avec lui. C'est sa bonhomie, sa capacité à entraîner, quoi. Il a eu, comme tout le monde, des gros emmerdements, mais il en tient jamais compte dans sa vie au quotidien, quoi. C'est toujours un gars qui est capable de redonner le moral ou de donner le moral aux autres. C'est un joyeux, c'est un gars agréable. Voilà, c'est pas ce qu'on appelle une pie crevée, quoi. C'est vraiment un gars qui a du psych, quoi, qui a quelque chose.
La première fois que j'entends cette expression, mais je trouve qu'elle est belle. C'est pas une pie crevée, Lionel Charbonnier.
C'est bien. Ouais, non, c'est vrai que j'ai eu des moments compliqués et comme beaucoup. Hein, et à un moment donné, faut que tu t'effaces quand t'es blessé, surtout les blessures, les croisés. Et ça, c'était compliqué à vivre. Je suppose qu'on va y revenir, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Et il nous faisait des trucs, mais des fois, il appelait Giroud pour dire, hey, Lolo, dans les soirées qu'on faisait, Lolo, yo, bon, demain matin, vous inquiétez pas, il appelait Giroud directement au téléphone de l'avion.
C'était votre couverture.
Ah ben ouais, il disait, les deux seront pas là, j'ai des sponsors à aller voir. Il dit, et voilà, on partait avec les deux Gérard et Laurent Blanc faire les 400 coups.
Et pour boucler la boucle sur Gérard Depardieu, il a également signé la préface de ton livre. C'est dire si c'est un homme qui compte aujourd'hui pour toi, même si au début, quand tu l'as rencontré, tu nous l'as raconté, tu pensais...
J'adore ce mec.
Tu pensais qu'il se foutait de ta gueule.
Ouais.
Autre papier dans la boîte à souvenirs avec Lionel Charbonnier sur RMC. Nous retraçons ta carrière et le prochain papier.
Ah, Seb Blatter.
Alors pourquoi Sepp Blatter? Ça se passe en 2006. Sepp Blatter est évidemment président de la FIFA. Et il te dit quelque chose. Il te demande quelque chose. Mais il te demande quoi, Lionel?
Il me demande si je me sens capable. Alors, on s'était déjà rencontré avant, lors d'un colloque avec la FIFA. C'était en Nouvelle-Calédonie. Monsieur Blatter sait que je viens de passer mes diplômes d'entraîneur. Et il me dit, écoute, j'ai un petit souci parce que il faudrait que je trouve un entraîneur capable de me qualifier une petite fédération dans la plus petite des confédérations pour un tournoi majeur. Alors je commence à me demander, je dis mais qu'est-ce qu'il veut ? Il me dit, est-ce que ça te plairait d'entraîner une petite nation, Tahiti, pourquoi pas ? J'ai dit ouais, ça me plairait, c'est bien ça fait du bien ça. Et j'ai dit oui, mais il me dit bouge pas. Il dit je vais te chercher le président de la fédération tahitienne qui est un des vice-présidents de la FIFA puisqu'il était aussi président de la confédération océanienne. Et il nous présente, il nous dit tombez d'accord, il y a pas de souci, vous allez tomber d'accord. Lionel est d'accord pour relever ce challenge et qualifier Tahiti pour une Coupe du Monde. Et donc là tout commence.
Et donc en 2007 tu vas t'engager pour 4 ans en tant que sélectionneur national de Tahiti. Tu mets en place non pas une politique uniquement pour l'équipe première, mais pour toute la cellule tahitienne. Tu t'impliques vraiment dans ce projet. Mais c'est très compliqué, on te met quand même pas mal de bâtons dans les roues, ouais. C'est difficile pour faire ce que tu as envie de faire et pour créer ta politique, parce que à la base, t'es parachuté par Sepp Blatter et on ne veut pas forcément te voir. En tout cas, les dirigeants, pas les joueurs, mais les dirigeants.
Je me souviens d'une radio qui m'a demandé, mais pourquoi tu viens à Tahiti ? Quel est ton but, à part prendre des vacances et prendre de l'argent ? Je dis, moi je viens à Tahiti pour qualifier Tahiti pour une Coupe du Monde, et là on me prend pour un cinglé. Et j'ai dit, vous verrez. Et on a fait la Coupe du Monde, bordel.
Et en 2009, tu es le premier entraîneur à qualifier une équipe tahitienne de football dans une compétition mondiale. C'est donc la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Bon, forcément, ça se passe pas très bien.
On a pris des taux, là.
Il y a un 8-0 face à l'Espagne, 8-0 face au Venezuela, 5-0 face au Nigeria. Mais l'essentiel est ailleurs. Tu as mis Tahiti sur une carte pour le football.
Exactement.
Évidemment.
Alors, je me souviens que lorsque même mes Tahitiens, mes joueurs me disaient, venez me voir et pleurer comme des madeleines, les pauvres, les familles pleurer, parce qu'il faut savoir que quand vous sortez du Feinois là-bas, de Tahiti, c'est très compliqué. Beaucoup ne sortent pas de leur rue, de leur propre rue. Ils ne changent pas de quartier.
T'as eu des nouvelles, notamment de ton adjoint Samuel Garcia?
Alors Sam, on s'est retrouvé, oui, bien sûr, on s'écrit sur Twitter souvent. On s'est retrouvé ensuite, on est allé en Indonésie ensemble. Mais depuis, ça fait un petit moment donc qu'on s'est pas eu au téléphone. Ouais.
Eh bien, je te propose de l'écouter.
Ah, mon ami.
Lionel Charbonnier était le premier entraîneur à qualifier Tahiti pour une Coupe du Monde. Donc ça, comme il dit à chaque fois, les premiers restent les premiers. Ensuite, c'est un peu mon grand frère. On se ressemble beaucoup. Quoi. On a les mêmes. Un peu les mêmes centres d'intérêt, on vient, lui il est de Poitiers, moi je suis d'Angoulême à la base, c'est à partir de là que ben les choses ont prise de jour en jour et la qualification a fait que derrière on a écrit une histoire qui est gravée à jamais dans le football polynésien, quoi, tu vois. On dit en général les gens pudiques, on dit voilà, on n'ose pas se dire entre hommes qu'on s'aime, mais moi il sait que je l'aime et puis et que je le remercie du fond du cœur. Pour la trace indélébile qu'il a laissée ici à Tahiti et surtout la trace indélébile qu'il a laissée dans mon cœur.
C'est top.
C'est beau, hein?
C'est un super mec. Mais voilà, moi j'avais des faiblesses en arrivant là-bas. Et Sam est un mec qui était déjà polynésien dans son cœur aussi, parce que ça faisait un petit moment qu'il était arrivé à Tahiti. Et je me suis dit, il faut que je trouve un adjoint. Qui connaissent à la fois la culture et qui est aussi ma culture. Et c'était l'homme idéal. Et c'est un mec extraordinaire. C'est un mec. Tous les deux, hein, des soirs, des fois, on refaisait le monde, hein, parce qu'on se prenait la tête, hein, pour quand tu fais des entraînements. Et des fois, les Tahitiens te regardent, mais ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font les coachs? Et là, à la fin de l'entraînement, tu te dis. Putain, Sam, on va pas y arriver.
Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Lionel Charbonnier pour sa boîte à souvenirs sur RMC.
RMC, 20h-21h.
La boîte à souvenirs.
De retour dans la boîte à souvenirs sur RMC avec Lionel Charbonnier. Lionel, on continue cette boîte à souvenirs. Nouveau papier avec toi.
Numéro 3.
Bah justement, numéro 3. Lionel Charbonnier qui restera pour le grand public comme le troisième gardien des Bleus. Tu es dans la pré-liste d'Aimé Jacquet lors de cette Coupe du Monde 98, lorsqu'il annonce sa liste. On est en avril, en mai. Mais tu n'as aucune garantie d'être dans les 22, évidemment. Nous sommes le 22 mai 1998 et là, il y a six joueurs qui doivent quitter la sélection.
11h45 ce matin, Aimé Jacquet met fin à un long suspense et confirme ce que les sélectionnés français savaient depuis hier soir. De 28, la liste des joueurs est enfin ramenée à 22 noms, un choix qui élimine un gardien, Letizy, et 5 joueurs de champ, l'Aigle, Gétou, Lamouchi, Ba et Anelka.
Bien sûr qu'une décision, c'est dur, c'est même très cruel, mais nous vivons dans un monde cruel. Donc à partir de là, il faut en accepter ou il faut faire autre chose.
Mais le monde n'est pas cruel pour toi, évidemment, car tu apprends que c'est Lionel Letizy qui a laissé sa place. Tu vas donc être le numéro 3 à la Coupe du Monde. Comment tu l'apprends? Parce que on l'a bien compris, c'est recalé
spécial.
De 98, ça se passe dans la nuit. C'est dans la nuit qu'il quitte le château.
Exactement, c'était la veille au soir. Donc là, c'était le son qu'on a entendu, c'était le lendemain matin à vers 11h30, je crois, de mémoire. Et la veille au soir, alors je me suis donné à 300% parce que mon papa m'avait dit, écoute, tout ce que tu fais-le tout le temps à 200%, 300%, que t'aies pas de regrets. Et donc durant toute cette période de pré-sélection entre guillemets, je me donne à 300%. Je suis fatigué. Je vais voir c'était le dernier jour et je vais voir. Je dis bon, bah j'ai jamais voulu prendre la place d'un autre au massage ou quoi ou qu'est-ce. Donc là je vais, mais là j'en peux plus. Je suis à bout de force et je vais voir un kiné et je lui dis écoute Fredo. Est-ce que tu peux me prendre ce soir après les titulaires, bien sûr. Mais est-ce que tu peux me prendre ce soir parce que là j'en peux plus. Il me dit oui, elle est où ta chambre? J'explique où est ma chambre sous les toits là-bas. Et il me dit écoute, je viendrai. Mais j'ai dit tu sais, j'ai dit si jamais je suis pas dans la liste, t'emmerde pas quoi. Il me dit et puis voilà. Il dit oh, mais il dit t'inquiète pas. Et donc là je m'endors. Enfin je me mets dans mon lit, les draps comme demandait Giroud, les draps jusqu'au nez, et je me mets. Devant ma télé, j'attends, je m'endors. Et à 1h30 du matin, ça sonne, ça tape.
Et il faut bien préciser que quand ça tape normalement cette nuit-là, c'est pas très bon. Ça veut dire qu'il y a Aimé Jacquet derrière la porte.
Bien évidemment.
Qui t'annonce que tu vas partir.
Bien évidemment.
Mais pour toi.
Et là, je lui dis, je vois le kiné. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous? Je dis, t'as vu l'heure? Il me dit, ouais. Il me dit, je viens te masser. Je dis, mais non, Fredo. Je dis, mais va te coucher. J'ai dit, c'est bon. J'ai dit, ça se trouve, demain matin, je serai même pas là. Il me dit, mais non. Il dit, ils sont partis. Je fais quoi? Il me dit, Aimé a donné la liste et tous les joueurs sont partis. Ils ont voulu partir tout de suite. Et non pas demain matin. Il reste plus que vous, les 22 et tout ça. J'ai dit, t'es en train de me dire que je fais la Coupe du Monde? Il me dit, mais bien sûr. Il me dit, allez, allonge-toi et tout. Alors, j'ai dit, attends, faut que j'appelle mon père, faut que j'appelle ma maman, faut que je leur dise parce que, et donc, j'ai appelé et j'apprends et c'est Fred Mankowski qui m'apprend que je reste, que je fais partie de la liste des 22. C'était, quel bon massage, bordel.
Nouvelle invitée dans cette émission, dans ta boîte à souvenirs, Lionel Charbonnier, Philippe Bergerot, qui était à cette époque l'entraîneur des gardiens de but de l'équipe de France. Pourquoi ils ont choisi Lionel Charbonnier et non Lionel Letizy?
Les deux gardiens partaient à égalité. Ils étaient pratiquement du même niveau, mais bon, Lionel Letizy sur le match de la Russie avait complètement raté sa performance ce jour-là, et c'est ce qui a fait vraiment la différence pour prendre Charbon. Bien complet, avec une grande coordination, beaucoup de présence dans les buts, et puis voilà, tous les bons gardiens sont un petit peu fous, et lui, je dirais pas qu'il était fou, mais c'était un guerrier, et quand on est gardien de haut niveau, je pense qu'il faut être un sacré guerrier pour réaliser les performances qu'il a réalisées avec son équipe d'Auxerre.
Est-ce que tu te souviens ce que faisaient tes parents ce soir-là?
Oh, les pauvres.
Le 12 juillet 98.
Ouais, les pauvres. Je suis nul.
Bah attends, on va écouter ton papa. Jean-Pierre Charbonnier nous racontait cette finale 98. Forcément, hyper fier le papa de voir son fiston champion du monde.
Vous savez que les joueurs de foot sont extrêmement superstitieux.
Oh, putain.
Et nous, nous étions dans son hara, dans un studio avec une petite télé portative presque, un petit écran de 30-40 centimètres, et on a vécu la finale devant ce poste-là. Mais bien sûr qu'on est avec sa mère, ben bien sûr, c'est l'aboutissement de d'un nombre incalculable d'années et d'efforts et de sacrifices à faire. Effectivement, de ce côté-là, on peut être que fier, effectivement, du résultat, en fin de compte, parce que c'est l'apothéose, quoi. Vous savez, on est un peu sur, comment je veux dire, pas sur le toit du monde, mais on est peut-être plus soi-même, même, en fin de compte, hein.
Lionel, d'entendre ton papa fier de toi, il te le dit ou pas ?
Ouais, mais je suis un con.
Pourquoi ?
Par superstition, je suis un con. Parce que il est pas venu, ils sont pas venus, ils étaient jamais là. Tant qu'on se qualifiait, ils étaient pas là. J'ai dit putain, si vous venez et qu'on perd, j'ai dit c'est pas possible. Et donc je suis un véritable con parce que voir, il y a même des amis à lui qui y étaient. Des amis à mes parents qui étaient à la finale, parce que mes parents, je leur dois tout, et ne pas les faire assister à ça, c'est un crève-cœur. Mais quelque part, je me suis dit, je pensais qu'on allait être champion du monde. Je le savais au fond de moi, comme tous les, comme les 22, enfin les 30 du staff aussi. On savait qu'on allait être champion du monde. Mais je pense qu'il valait mieux mettre tous les atouts de notre côté et se dire tant pis, ils vont pas assister à ça, mais le plus important c'est que je puisse revenir avec la Coupe du Monde, avec la médaille, quoi.
Et les parents O'Hara, on aura bien compris. Lionel Charbonnier, la boîte à souvenirs continue. Un nouveau souvenir pour toi maintenant.
Waouh, Sanga Balende.
Sanga Balende. Ah, Kézako.
Alors Sanga Balende, c'est en fin de compte mon dernier club, le dernier club que j'ai entraîné.
2015, c'est un club du Congo.
Exactement, de RDC. D'ailleurs, il y a un gros génocide actuellement en RDC qui passe inaperçu. Il faudrait bien qu'on en parle un petit peu parce qu'il y a des choses qui se passent là-bas qui sont inadmissibles. Des choses que j'avais déjà vues, entrevues lorsque j'entraînais là-bas, où les hommes ne sont pas traités comme des hommes. Et je décide d'aller là-bas parce que il y a un monsieur, Sanga Balende, c'est à Mbujimayi, exactement. La ville, c'est dans la Pampa, hein. Et ce monsieur, qui est le gouverneur, richissime.
Riche diamantaire.
Diamantaire, c'est lui qui s'occupe de tous les diamants, me demande d'aller entraîner là-bas. Il me paye. Bien. Y a pas de souci. Je dis pourquoi pas.
Sur Sanga Balende, c'est ton dernier match qui est très particulier parce que tu vas jouer à l'extérieur et tu es escorté par l'armée. Raconte-moi comment ça
se passe. Oui, parce que le gouverneur savait comment ça allait se passer. Et donc, on va jouer mon dernier match parce que j'avais prévenu les joueurs que j'allais sûrement partir, que je cautionnais pas ce qui était fait. Et donc, lors de ce dernier match, le gouverneur fait venir l'armée pour nous protéger à l'extérieur. Et là, on gagne 1-0. Il reste 10 minutes de jeu et je ne comprends pas ce qui se passe. J'entends des bruits bizarres et là, il y a des pierres qui envahissent le terrain. Des pierres sont jetées. Les spectateurs de l'équipe adverse cassaient les tribunes et jetaient des pierres sur mes joueurs. Alors, heureusement, il y avait quand même une piste. Mais certains de mes joueurs prennent un joueur pour une pierre en pleine tête. Je ramène mes joueurs dans la guitoune pour mettre des trucs, des sparadraps, tout ce qu'on avait sous la main, quoi. On essaie de colmater tout ça, du sang partout dans ma guitoune. Et là, l'arbitre vient me voir, il me fait, monsieur Charbonnier, il me dit, j'arrête le match. Et moi, je dis, ouais, on peut pas continuer.
Toi, t'es d'accord.
J'ai dit, c'est pas possible, on peut pas continuer. Et là, il y a un des joueurs qui vient me voir, il me fait, non, coach, on continue. Surtout pas. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, mais vous êtes fous, on peut pas continuer dans ces conditions-là. Alors, il y a une loi là-bas qui dit que lorsque le match est arrêté avant la fin du match, il faut le rejouer le lendemain. Il dit non, coach, parce que on va pas revenir demain. Hein. Il dit là, on fait les 10 minutes comme ça, on termine le match comme ça. J'ai dit, mais il jette les pierres et tout. Il dit, ouais, mais demain, ça sera pire. Donc, c'est très compliqué. Et les joueurs étaient extraordinaires. Ça, c'est des joueurs. Ils m'ont donné une leçon de vie, quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des joueurs qui pourraient jouer. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, certains sont en équipe nationale maintenant, ont retrouvé l'équipe nationale et beaucoup d'entre eux pourraient jouer en première division en France.
Hein. Chibangu, est-ce que ça te dit quelque chose? C'était ton attaquant.
Mon attaquant, ah oui!
Oui, on va l'écouter.
Mais non!
À propos de Lionel Charbonnier.
J'ai beaucoup de souvenirs par rapport. Donc, il m'a entraîné dans San Cavalende. C'est un monsieur, c'était vraiment un papa pour moi. Il était pour moi un papa qui m'a beaucoup. Donc, j'ai de bons souvenirs sur lui. C'était vraiment, même son départ, tous les joueurs étaient vraiment frustrés. Donc, nous sommes reconnaissants jusqu'à aujourd'hui. Il a amené l'équipe à haut niveau.
Ouais, c'est des mecs, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Qu'est-ce qu'ils étaient beaux, ces joueurs, bordel.
Autre papier, tu peux piocher dans la boîte à souvenirs. Lionel Charbonnier sur AMC.
Stade Poitevin.
Stade Poitevin. Oui, parce que tout commence sur ce stade Poitevin. Tu es petit et ton frère, vous avez un jeu avec ton frère. Vous allez sur le stade, il te met dans les buts et il fait quoi?
Mon frère, je lui dois tout. Il n'est plus là.
Et c'est vrai que ton frère t'installe dans les buts, il a envie de te faire jouer, il a envie de te faire progresser.
Mon frère est très bon dans les buts, il est grand. Je dirais, s'il avait un défaut, il n'avait pas le mental que moi j'avais. Mais lui, il l'a su tout de suite, et il décide de m'entraîner moi, et il vit à travers moi. C'est un putain de coach. Et puis mon frère, tous les jours, me dit « Fais tes devoirs et on va à l'entraînement. » Et on s'entraîne jusque tard dans la nuit. Des fois, on oubliait de manger. Ma mère, qui nous engueulait parce qu'on s'entraînait tous les jours dur.
Et ton papa, Jean-Pierre, se souvient très bien de ce moment-là.
Son frère était très, très, très strict. Et il ne lui faisait pas de cadeaux. Ça, je peux vous dire qu'il ne lui faisait pas de cadeaux. Et c'est vrai qu'il l'a bombardé. Son frère l'a très, très, très motivé. Et il en a toujours... Entre parenthèses, il disait j'en ai chié, ou il m'en a fait chier plutôt, mais il était très, très reconnaissant par rapport à ce qu'il lui avait fait faire. Moi, j'avais tendance à être un petit peu sévère aussi, surtout sur le plan de façon à ce qu'il n'attrape pas la grosse tête, vous voyez. Je ne le flattais pas trop pour ne pas qu'il attrape le melon, quoi. Mais bon, j'étais très, très, très heureux de le voir de travailler tel qu'il a fait, mais il en a beaucoup souffert un peu. Hein.
Ouais, c'était dur. C'était très dur. Très, très dur. Mon frère était très exigeant. En fin de compte, il était... je crois que l'exigence qu'il n'avait pas avec lui-même, il l'avait avec moi. Il l'a eu ensuite aussi avec ses enfants. Mais c'était un... De toute façon, lui savait déjà. Il me disait, si tu veux être un jour professionnel, il dit, c'est maintenant. Mais des fois, on a fini au couteau. Hein. Des bagarres de frangins au couteau, la vérité. Hein. Des fois même, je voulais pas aller m'entraîner. Il me forçait à aller m'entraîner. Et puis j'en redemandais. Et puis, il savait appuyer sur les bons boutons. C'était un véritable coach. Mais c'est vrai que, pour moi, mon papa le dit aussi, il était meilleur que moi. La seule chose qu'il avait en moins, peut-être, c'est le mental.
Et donc,
et puis, il n'avait pas un grand frère.
En partie, exactement. Et en partie, grâce à lui, tu vas donc être à Poitiers, en cadets nationaux. Ouais. Tu te retrouves dans la poule de la JOCR. Et Giroud, qui a entendu parler de toi, qui a entendu parler d'un bon gardien à Poitiers, il s'appelle Lionel Charbonnier, il vient voir le match. Et qu'est-ce qui se passe après le match?
Alors, après le match, il faut savoir que toutes les équipes qui venaient à la JOCR prenaient des dégelés monumentales. Pire que ce qu'on a pris, nous, en Coupe du Monde. C'était des 12-13-0. C'était la folie. Et nous, le premier match, je crois qu'on fait match nul. Et le deuxième match, on doit le perdre 1-0. Et là, ça tirait. J'étais canardé de tous les côtés. Le match rêvé pour les gardiens de but. Quoi, t'es canardé, ça se passe bien. Et là, Giroud, à la fin du match, me prend. Je sors pas du terrain, il me prend, il m'emmène, il me dit tiens, tu vas venir, je crois qu'il y a mon papa qui vient avec moi, tu vas venir avec nous, et il me fait visiter le centre de formation, et là Giroud me montre tout ça, mais je pareil, c'est comme quand il m'a appelé la première fois pour l'équipe de France à prime, voilà.
C'est un rêve, évidemment, toutes les installations de la
Mais je vois rien, je vois tout, je vois rien, je sais pas ce qui se passe, et je sais qu'une chose, c'est que ça a duré longtemps, et que mes copains ont attendu plus de 2 heures pour repartir d'Auxerre, pour aller sur Poitiers, et quand je suis rentré, tous mes copains, j'ai eu beaucoup, beaucoup de jaloux autour de moi, là, j'avais des copains, putain, ils chantaient.
C'est-à-dire que tu es en train de visiter le centre d'entraînement et puis tu reviens dans le bus.
Je reviens dans le bus.
Retrouver les copains et là.
Et là, ils chantent, ils sont contents. Ils sont heureux. C'est la première fois qu'on était heureux pour moi. Alors que moi, je l'ai pas fait pour moi. Tout ce que j'ai fait, je le fais pour les autres. Moi, je suis content quand les autres sont heureux. Et là, je les avais rendus heureux.
C'est beau de voir ses copains. Voilà,
oui, parce que je m'y attendais pas. J'ai eu tellement de jaloux quand j'ai eu les sélections. Le sélectionneur me faisait aussi passer des catégories supérieures. J'étais surclassé, tout ça. Il disait mais il est trop petit, il n'y arrivera jamais. On m'a démonté. Et c'est là que mon frère intervenait. Il disait mais tu vas leur montrer, tu vas tous leur montrer. Et j'avais que des mecs qui me tiraient, que des gens qui me tiraient vers le bas. Et c'était dur pour mes parents, c'était dur pour ma maman aussi.
Et à cette époque-là, tes idoles, c'est qui, les gardiens de but?
Joël Batz, j'ai eu Yvan Kurkovic, Baratelli, Joël Batz...
Yvan qui?
Kurkovic.
Le gardien de Saint-Etienne?
Le gardien de Saint-Etienne.
C'était ton idole?
Ah ouais, bah Kurko, c'est un mec fabuleux.
C'est marrant parce que, justement, on lui a demandé de participer à cette émission.
Mais non.
On écoute Yvan Kurkovic.
Mais non.
Ça me fait plaisir, c'est-à-dire c'est toujours plaisir si vous êtes idole, si vous êtes exemple, surtout un exemple pour les autres, les gardiens de but qui sont. C'est un poste difficile et pour nous peut-être on a besoin dans la vie d'avoir une idole, un exemple devant nous. C'est-à-dire c'est quelque chose, surtout un exemple qui est assez régulier, qui est un peu particulière, on trouve toujours quelqu'un qui, voilà. Alors, moi, je suis très flatté parce que c'est avoir quelqu'un qui a réussi comme ça, comme Lionel.
Bah, merde.
Et voilà.
Mais il est où?
Il est où? Bah, il est en Bosnie et voilà. Et
il parle très très bien français.
Ouais, il était très heureux de savoir que tu as fait partie de ses idoles quand.
Ah mais c'est grâce à ce mec-là. Mais moi je me souviens, mon frère, on pouvait pas acheter les écharpes de Saint-Étienne, on était de Poitiers. Mon frère, c'était le vert, c'était sa couleur, très très grand supporter des Verts, avec vert. Il avait son écharpe que ma mère lui avait tricoté avec bleu, blanc, rouge en bas. Et on était devant la télé. Et là, il y a PSV, Saint-Etienne PSV, avec les envolées de... Mais Kurkovic était fabuleux. Je le vois toujours avec un short noir, un maillot bleu ciel, des gants. Yvan Kurkovic, c'est mes premiers gants que ma maman a pu m'acheter. C'était des gants Adidas Kurkovic. Je dormais avec. C'était fabuleux. Je voulais un maillot bleu ciel. Je voulais ressembler à Yvan Kurkovic. C'est un mec fabuleux. Enfin, c'est voilà. Waouh, comment vous avez fait? Et qu'est-ce qui vous a dit ça, Kurko?
Ben, on s'est quand même intéressé à toi, mon Lionel.
C'est gentil.
Allez, autre papier dans la boîte à souvenirs. C'était une petite surprise, voilà, pour l'une de tes idoles quand tu étais petit.
Bruno Martini,
nous sommes en 93-94, tu as 27 ans et enfin tu es titulaire avec la JOCR. Malheureusement pour Bruno Martini, il s'est fait les croisés. Donc tu n'es plus le numéro 2, tu es numéro 1 cette saison-là. Sauf que la saison suivante, 94-95, il revient. Et toi, t'es numéro 2 de nouveau, tu te retrouves sur le banc.
Ah, c'est difficile. Difficile à vivre parce que tu pars de numéro 1 et tu te retrouves, comme tu viens de le dire, numéro 1 à Auxerre, mais numéro 2 en équipe de France. Et Bruno revient et on réattaque une saison. Et là, il y a les matchs amicaux au mois de juillet. Premier match, je ne joue pas. Deuxième, donc, on gagne le premier titre avec Auxerre. Deuxième match, je ne joue pas. En fin de compte, je ne jouerai jamais. Et là, je vais voir le coach et je lui dis, coach, je lui dis, mais je jouerai pas. Il me dit, il y a un numéro 1, numéro 2. Numéro 1, c'est Bruno. Numéro 2, c'est toi. Il me dit, mais si tu as un problème un jour, ma porte sera grande ouverte. Et là-dessus, Eh ben, je ferme ma bouche. Je me remets sur le banc de touche.
Et tu apprendras plus tard aussi que Giroud a tout verrouillé. C'est-à-dire qu'il y a d'autres clubs qui veulent avoir Lionel Charbonnier, mais Giroud gardera ça pour lui et ne dira jamais qu'il y a des clubs qui veulent te contacter.
Ouais, exactement. Il y avait le PSG à l'époque. Après, j'ai su. Après, il y a eu le PSG. Il y avait Toulouse, il y avait. Ben moi, je m'en foutais. Ce que je voulais, c'était jouer. Je voulais jouer. Et là, je jouais plus. Et je me retrouvais 20e gardien au minimum, 20e gardien de Ligue 1. Donc, je n'existais plus. Et c'est très compliqué pour moi à vivre.
C'est très compliqué. Et durant un entraînement, il y a un problème avec Giroud.
Bruno revient, mais on fait un 4-4. Je me souviendrai toujours. Moi, c'est un 4-4. Et ça se passait pas bien parce que Bruno, il y a des moments, il y a des jours t'es bien, des jours t'es pas bien, et Bruno était pas bien ce jour-là, et le 4-4 part en vrille parce qu'à chaque frappe qu'on faisait, ça, il y avait but, donc plus de jeu, plus rien. Et à un moment donné, je fais une connerie dans ce 4-4-là, je fais une connerie, et là, Giroud m'incendie alors que Bruno n'était pas bien, il m'incendie à moi, et tout ce qu'il avait envie de dire à Bruno, il me le dit à moi. Et là, ça me fait sortir de mes gonds, et je lui dis, j'arrête le foot. J'ai dit, vous n'êtes même pas capable, vous n'avez même pas la franchise de dire les choses. Il me dit, calme-toi. J'ai dit, non, coach, là, vous ne me connaissez pas. Moi, j'arrête le foot, c'est fini. Et je rentre dans le vestiaire. Il arrête l'entraînement. Et comme il m'avait dit, ma porte sera toujours ouverte, je savais que la porte était ouverte parce qu'il a laissé toujours ouverte. Au moment où je veux aller dans son bureau, parce que je lui donne rendez-vous, j'ai dit, bon, on va se parler dans votre bureau maintenant, en tête à tête. Lui, ferme la porte, il ferme la porte à double tour. Et là, je pète un câble, je tape. De colère, je tape dans la porte, sauf que je casse la porte. Mon poing passe à travers la porte. Et c'était une porte alvéolée, vous savez, un petit truc. Et là, il me dit, calme-toi. Je me suis pas calmé. Je suis allé chez moi. Je joue plus. À partir de là, je ne joue plus au foot.
Je voudrais juste écouter Giroud, sur cet épisode. Alors, on lui a rappelé, évidemment, cet épisode de la bagarre, tout ça. Lui, tu le connais, hein. Il préfère ne pas en parler. Il préfère esquiver un petit peu. Je te propose.
C'est normal.
C'est évident que je voulais pas qu'il s'arrête. Il a peut-être eu un moment où j'avais les deux, mais très vite après, quand il est devenu titulaire, quand Bruno Martini a arrêté, il est devenu titulaire. À la GIA, c'était la règle. Et Fabien Coul est resté très longtemps dans l'ombre de Lionel Charbonnier avant de rentrer dans l'équipe et de faire à son tour 400 matchs.
Alors, il te convainc, en tout cas, de revenir à l'entraînement. Le problème, c'est que Bruno Martini, il te le dit, il te dit « barre-toi ».
Oui, parce que Bruno, ce qui se passe, c'est que juste avant que Bruno se blesse, Bruno signe très longtemps, signe un long bail avec la JOCR, et mon père, qui est à la Fédé, voit un avenant passer. Et mon papa m'appelle et me dit, Bruno a re-signé. Ah, je dis non, Bruno, on est très lié avec Bruno. J'ai dit, Bruno me l'aurait dit. Il me dit, je te dis qu'il y a un avenant qui est passé, il a re-signé. Et donc le lendemain matin, je vois Bruno, je lui dis Bruno, t'as re-signé ? Il me dit non, t'inquiète pas, je te l'aurais dit. Ben, je dis ouais, c'est ce que j'ai dit à mon père. J'ai dit on est tellement liés tous les deux, je dis que parce que moi je savais que j'avais de la demande, et que Giroud me cadenassait de tous les côtés. Je dis tu me l'aurais dit pour que je puisse partir tout ça. Et puis Giroud fait son speech comme il fait tous les matins avant l'entraînement et il finit son speech, tous les joueurs vont à l'entraînement, vont sur le terrain, et Bruno me prend la main et me dit « Yo, faut que je te parle ». Et il me dit « J'ai signé, pars-toi ». J'ai signé longtemps, très longtemps, donc il faut que tu partes, parce que effectivement, comme l'a dit Giroud, c'était comme ça, le gardien titulaire restait titulaire, il n'y avait pas de turnover, il n'y avait pas tout ça. Et il veut pas me briser ma carrière, donc Bruno me dit « Barre-toi ».
Et toi, tu penses partir. Nous sommes donc à l'été 95. Tu as quand même fait la saison en tant que numéro 2. Voilà, il y a l'épisode avec l'entraînement. Il y a l'épisode de Bruno Martini qui te dit « barre-toi ». Et cet été 95, tu pars en vacances à Saint-Tropez avec Anna, ta femme.
Ouais.
Et là, tu vois quelque chose.
Et là, je vois, on est tous les deux. Et sur le trottoir à Saint-Tropez, on est en train de se balader le matin. On venait boire un café, je crois. Ou alors on cherchait un resto, je sais plus, et je vois, tu sais, les trucs rouges là, la une des journaux à Saint-Tropez, Martini, Bruno Martini à Montpellier. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, j'ai mal lu, j'ai pas. Et puis donc tout de suite ma femme va acheter le journal. Et effectivement, Bruno a signé à Montpellier. J'en savais strictement rien, comme j'avais pas d'agent, j'avais rien. Giroud m'a pas appelé.
Et en fait, Giroud, quand il t'a demandé de lui faire confiance, c'est parce qu'il avait fait re-signer Bruno Martini, mais c'était dans
ça, je l'ai
un
su
seul but. C'était de le vendre plus cher à Montpellier.
Bien évidemment, j'ai compris bien plus tard. Il avait fait re-signer Bruno pour le vendre plus cher. Et surtout, il l'avait fait rejouer pour montrer au football français que Bruno était redevenu le grand Bruno Martini et qu'il valait encore son pesant d'or et qu'il allait nous permettre d'avoir nos salaires à nous. Et donc, c'était la stratégie du coach qui m'avait fait un plan de carrière, mais qui s'était trompé de 2 ans à peu près. Une ou deux années. Et donc, je me retrouve là, parachuté, premier gardien de la JOCR.
En 95, et on l'a dit tout à l'heure, tu vas donc remporter cette année-là, 95-96, il a bien fait Giroud, le championnat, la Coupe de France. Alors, la boîte à souvenirs, c'est terminé avec toi, mon Lionel, mais dans quelques instants, restez bien avec nous sur RMC. Nous allons sortir de la boîte, toujours avec Lionel Charbonnier.
RMC, la boîte à souvenirs,
la sortie de boîte.
Et tu vas devoir répondre à des questions ou à des messages de proches, Lionel Charbonnier. Ce n'est pas terminé pour toi cette émission. On va débuter avec, on l'a entendu dans la boîte à souvenirs, Jean-Pierre Charbonnier, ton papa. Il a quelque chose à te dire.
À l'heure actuelle, que je suis fier de ce qu'il a fait, parce que je ne sais pas si franchement je lui ai dit de vive voix. Alors je pourrais lui dire effectivement que maintenant je suis fier, même si je lui ai pas dit, comme je disais tout à l'heure, pour ne pas qu'il attrape le melon, mais effectivement avec sa mère, parce que moi je mets toujours sa mère avec, que on est fier de lui. Peut-être la question, est-ce qu'on lui a tout apporté ce qu'il aurait voulu en tant que parent, s'il a eu tout ce qu'il aurait souhaité?
Bah bien sûr, ce sont des parents extraordinaires. J'ai eu la chance de naître dans un milieu familial extraordinaire. Ce sont des gens qui ont fait beaucoup avec peu de moyens, des personnes intelligentes. Si tous les enfants pouvaient avoir des parents comme les miens, ouais.
Un petit message de Giroud maintenant, tu vas voir, c'est du Giroud dans le texte. Hein.
Réfléchis bien aux quelques rares buts dont tu as été responsable. Et puis si on les rejoue, fais autrement.
Ouais, moi je me souviens d'une fois où j'ai pris un but et ça m'a marqué à vie parce que j'avais pas l'impression d'avoir fait une erreur. C'était un coup franc. C'est un coup franc tiré de mon côté, donc petit côté. T'as un but de hand en fin de compte à garder. T'as un but de 2 mètres sur 2. Un jour, j'ai pris un but comme ça. Et Giroud me convoque le lendemain. Il me dit, tu vois ce que t'as fait là? Il me dit, c'est entièrement ta faute. Tu n'as pas le droit de prendre un coup franc de ton côté. Il dit, et toi, quand tu mets un mur, il dit donc là, c'est interdit. Il dit, ça, c'est entièrement ta faute. C'est pour ça que je suis très sévère avec les gardiens qui prennent des buts de leur côté maintenant.
On parlait tout à l'heure de 1990, en tout cas du début des années 1990 à la JOCR, où il y a comme gardien de but Bruno Martini en 1. Toi, tu es en troisième normalement en 92, parce qu'il y a un numéro 2. Il s'appelle comment le numéro 2 à cette époque?
À cette époque-là, c'est Didier Loiseau.
Non.
Il y a Didier Loiseau ou il y en a eu un deuxième qui est arrivé. Quand Bruno revient en numéro 1, c'est Franck Merel.
Franck Merel. Tu as eu des nouvelles de Franck Merel?
Non, le pauvre, mais c'est un mec que j'ai adoré. Bon, maintenant, je sais, tu vas plus me surprendre, il va être là, non? Ou à moins qu'il arrive dans le studio, je sais pas. Mais Francky, alors, normalement, les Parisiens doivent s'en souvenir. C'est un super mec, c'était un très bon gardien.
Et oui,
doublure de Baratelli, je crois.
Mais que tu as perdu de vue, Franck Merel.
Oui, Francky, ouais.
Et tu le regrettes?
Ah oui, parce que j'adore ce mec.
Et ben, tu sais quoi, lui aussi?
Il fait partie des belles rencontres dans le football. Le football, c'est aussi des rencontres humaines. Et Lionel fait partie des gens que j'ai appréciés. J'ai apprécié de travailler avec lui. J'ai apprécié l'homme. Donc, c'est toujours intéressant. Alors, c'était bref parce que ça n'a duré qu'une année. Mais ça s'est toujours super bien passé. On s'est tiré la bourre. On a essayé de prendre la place à Martini, ce qui était difficile à l'époque. Mais ça a été toujours dans un super état d'esprit. Et on arrivait à travailler sérieusement et en rigolant. Donc, ça, c'était super important.
Ouais. Alors sache qu'il est aujourd'hui agent immobilier à Boulogne-Billancourt, juste à côté.
Mais il aurait pu.
Donc tu me feras le plaisir, toi qui as très envie de revoir Franck Merel et lui aussi, tu me feras le plaisir, on t'organise un petit restaurant.
Ah mais oui, parce que Francky, c'est un mec extraordinaire. Il faut savoir que il a fait qu'un an, comme il le disait à la JA, en tant que doublure, mais il est allé voir Giroud en disant, écoutez, j'ai plus rien à foutre là, parce que le petit jeune qui est derrière, il est au moins aussi bon que moi. Donc laissez-moi partir. Et il est parti voler de ses propres ailes, Francky.
Bon, on a quasiment terminé cette émission, et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tes enfants. Tu leur inculques quelle valeur, toi, l'homme entier, l'homme qui qui est sage aujourd'hui.
Je sais pas. Je pense être sévère avec eux, peut-être un peu trop. Surtout l'humilité, l'abnégation. savoir que jamais rien n'est acquis, il faut toujours travailler et puis d'être eux-mêmes et de jamais regretter quand ils font des choses, faut qu'ils les fassent à fond sans réfléchir et voilà, c'est
Stella, un message pour toi.
Oh là là, je redoute le pire.
Moi, je l'ai jamais vraiment remercié de tout ce qu'il a fait pour moi, de s'impliquer autant dans ma passion. Il a toujours tout fait, ils ont fait des sacrifices énormes pour pouvoir m'acheter des chevaux, pour pouvoir faire de beaux concours, pour que j'ai du beau matériel. Il prend son temps pour me coacher. Oui, j'aimerais le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi.
Oui, bah je sais, bah elle est pas, elle est comme mon papa, elle va pas te dire merci comme ça. Bon là c'est gentil, mais non, elle a pas à me remercier. C'est un devoir de papa. Moi, elle m'appartient pas, c'est pas ma fille, c'est une enfant qui est née maintenant et on essaie de la guider du mieux possible et tant qu'on peut l'aider, bah on l'aide ainsi qu'Alessandre, c'est notre métier de parent. Elle se débrouille très bien, elle va y arriver, ouais.
Voilà pour les messages des proches. Mais dans cette sortie de boîte, tu le sais, quand on sort de boîte, il peut y avoir quelques problèmes. Et notamment, des interrogatoires. Mon Lionel, aïe. L'interrogatoire avec toi, Lionel Charbonnier. Le joueur le plus fort avec qui tu es joué?
Je pourrais te dire Zizou, bien évidemment. Donc Zizou, mais peut-être aussi Cantona.
Le joueur le plus surcoté avec qui tu es joué? Zizou un peu, non?
Jeune Champ.
Le club que tu rêverais d'entraîner?
Glasgow Rangers. C'est un club fabuleux.
La personne avec qui tu n'as pas envie de te réconcilier?
Jeune Champ.
Évidemment. La dernière fois que tu as pleuré, Lionel?
Bah, tout à l'heure, à cause de toi.
Et ton plus beau moment à l'antenne?
Celui-ci en fera partie, parce que je pense que c'est la première fois qu'une radio s'intéresse à moi aussi longtemps. Donc c'est très gentil, je vous remercie.
Moi mon Lionel,
c'est que ça.
Alors, si t'en as pas, moi j'adore tes saucisses à l'antenne, et notamment dernièrement parce que forcément on fait l'antenne ensemble.
Elle était belle,
on va revivre ce moment.
Ça fait très longtemps que Angers n'a pas perdu 3 matchs consécutifs. Donc connaissant Stéphane Moulin, il a dû remuer un petit peu dans les brancards.
On va me tomber dessus à bras raccourcis. Je m'en bats les roploplos.
Je vois ces Montpelliérains déjà très forts psychologiquement pour attaquer parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un gros à la maison, à chaque fois ils ont su mener à bien leur barque.
Excuse-moi Kevin, mais la grosse différence, hein, on y revient toujours. Enfin moi c'est un petit peu mon chef de bataille. Il y a eu les tripes Ben Arfa là.
Et voilà.
Oh mon Dieu.
Avec Lionel Charbonnier.
Oh mon Dieu.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.
Merci mon JC, c'est un vrai plaisir. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à toi pour toutes les recherches, à ton équipe. Je sais que c'était un gros travail pour vous.
Demain, Philippe Saint-André ouvrira à son tour la boîte à souvenirs à 20h. Un grand merci, tu l'as dit, à toute l'équipe qui a travaillé merveilleusement bien sur cette émission. Pierre Amiche, notre producteur, Suzanne Folli à la réalisation et Arthur Perrault qui a dégoté tous ses numéros pour te faire ces jolies surprises.
Quel malin.
Lionel, tu as commencé cette émission, tu vas pouvoir la terminer. La petite musique, c'est à toi, face aux auditeurs.
Je voulais vous remercier de m'avoir supporté pendant tout ce temps. J'espère que ça va durer encore longtemps. Je m'excuse pour les moments où j'ai pleuré. C'est pas de ma faute, c'est de la faute à JC et à toute son équipe. Et puis surtout, je vous souhaite plein de belles choses, de belles fêtes. Soyez heureux, soyez vous-même et faites plaisir aux personnes autour de vous parce que à partir de ce moment-là, vous verrez que vous allez avoir un bonheur énorme.
RMC, la boîte à souvenirs.